la carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, vous pourrez, comme tous les vendredis, commenter l'actualité de votre choix. C'est la libre antenne, c'est l'occasion évidemment de nous interpeller sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Je ne vous cache pas que vous êtes très nombreux à souhaiter prolonger notre débat d'hier sur les frappes françaises au Tchad. Vous revenez également très nombreux au standard sur la stratégie pour le moins radicale de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wad qui appelle à empêcher la tenue du scrutin présidentiel du 24 février. Il y a tout de même d'autres sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent forcément. Par exemple, un ou deux auditeurs qui souhaitent réagir à la grève des enseignants au Mali. Des supporters du Paris Saint-Germain qui reviennent sur la victoire mardi soir du PSG face à Manchester United. Des réactions également sur cette éventuelle candidature d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle de 2020. Bref, les sujets ne manquent pas. Vous êtes les bienvenus. Appelez-nous 33 9 693 693 70. La libre antenne, ce sera donc dans une demi-heure. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Michael Ponge en parlait il y a quelques instants dans son journal, l'élection présidentielle de demain au Nigeria. David, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Gabon, merci de nous appeler de Libreville. Vous avez plusieurs questions donc concernant cette élection qui se tient demain au Nigeria.
Oui Juan. Demain aura lieu au Nigeria les élections présidentielles, législatives et sénatoriales. J'ai deux questions à ce sujet. Oui. Quel est le bilan du président sortant, Mamadou Bouhari, qui avait promis d'éradiquer le groupe Boko Haram? Et quel est le programme des autres candidats pour lutter contre Boko Haram?
Ouais, c'est vrai que le président Bouhari, candidat donc à sa propre succession, avait été élu en promettant de lutter contre le terrorisme, d'éradiquer Boko Haram. Hein, ce sont ses propres mots. Bonjour Binta Diagne.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Envoyé spécial de RFI au Nigeria, j'imagine que le bilan sécuritaire du président sortant sera évalué demain par les Nigérians lorsqu'ils iront voter, lorsqu'ils se rendront dans les bureaux de vote. Bilan pour le moins mitigé tout de même.
Ouais, bilan mitigé, voire même très critiqué au final. Hein. Il a toujours eu la même rhétorique depuis le début de son mandat qui consiste à dire que ce groupe djihadiste est techniquement défait. Mais dans les faits, l'armée a subi de nombreux revers ces derniers mois. En témoigne l'attaque contre des installations militaires en décembre. L'armée a déploré la perte d'une centaine de personnes. Alors il est vrai que l'on n'a pas signalé d'attentats suicides depuis un certain temps, mais les djihadistes semblent privilégier des attaques envers les forces de sécurité. Par ailleurs, il faut noter que l'insécurité règne dans de nombreuses localités du nord-est du pays. Par exemple, mi-janvier, les Nations Unies évoquaient la situation dans la ville de Rane, qui est proche de la frontière du Cameroun. Suite au retrait des forces de sécurité, les djihadistes de Boko Haram sont entrés dans cette ville-là, et selon l'ONU, sans aucune résistance, créant une grosse psychose. Résultat, 30 000 personnes déplacées ont fui cette ville. Sans compter le fait qu'au total, dans tout le Nigeria, on compte au moins 2 millions de personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent pas rentrer dans leur village à cause de l'insécurité.
Oui, donc bilan mitigé, alors que le président Bouhari a renforcé la coopération militaire bilatérale entre États, notamment avec le voisin camerounais. Il a également dynamisé la force multinationale mixte, qui regroupe des militaires de plusieurs pays de la sous-région, du Tchad, du Cameroun, du Nigeria, du Bénin, autour du lac Tchad. Mais dans les faits, voilà, Boko Haram reste invaincu, sa capacité de nuisance est toujours intact. Que proposent les autres candidats pour lutter contre Boko Haram?
Alors au total, il y a 72 candidats à cette élection présidentielle et aucun n'a mentionné cette question. Donc pas de proposition majeure, pas de commentaire même sur le bilan de Bouhari qui finalement est contesté et qui aurait pu être évoqué lors de cette campagne. Atiku Abubakar, le candidat de l'opposition, a affirmé cette semaine qu'il lancerait des enquêtes sur la gestion des hauts responsables militaires. Mais encore une fois, cette proposition n'a été faite qu'en fin de campagne, vraiment suite à une question de journaliste. Quant au président sortant lui-même, il a été également été très discret sur cette question et il continue de dire que son administration mettra fin à ce problème.
Ah oui, donc visiblement la question sécuritaire n'est pas un thème majeur de la campagne électorale. On aurait pu croire le contraire vu de l'extérieur, vu en tout cas depuis Paris et depuis Libreville, d'où nous appelle David, puisque David s'interrogeait sur le bilan de la lutte contre le terrorisme. A-t-on répondu à vos questions, David ?
Oui, merci beaucoup, merci.
Bonne journée.
On attend la suite des élections.
On attend la suite des élections. Vote demain et on suivra évidemment cette élection présidentielle avec Binta Diagne, notre envoyé spécial sur place. Bonne journée à tous les deux. 9h16 à Paris. Appelez-nous. Toutes vos questions nous intéressent. Aucune question n'est taboue. Donc profitez-en. 33 9 693 693 70. Satigui, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous êtes à Conakry, en Guinée. Alors, Arfang, alors attendez Satigui, excusez-moi, je vais d'abord prendre Arfang. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec mon écran où j'ai les noms des auditeurs. Vous patientez Satigui, on accueille d'abord Arfang. Il était là un peu avant vous au standard. Bonjour Arfang.
Bonjour Juan, comment j'espère que vous avez pu déjeuner.
Que j'ai, pardon?
J'espère que vous avez pris déjeuner pour ne pas faire l'erreur.
Ah, petit déjeuner. Oui, j'ai eu cette chance de prendre un petit café avant d'arriver dans ce studio. Arfang, vous êtes à Dakar, au Sénégal. On vous écoute. Quelles sont vos questions?
Bon, l'Union européenne a déclaré que 250 espions chinois et 200 Russes se trouvaient à Bruxelles.
Oui.
Qu'est-ce que l'Union européenne peut faire pour lutter contre ces tentatives d'espionnage? Sous quelle couverture les espions sont-ils présents à Bruxelles?
Oui, Bruxelles, où siège la Commission européenne, serait-elle finalement un nid d'espions? Bonjour Laxmi Lothar.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes l'une des correspondantes de RFI à Bruxelles. Selon le service de sécurité interne des affaires étrangères de l'Union européenne, il y aurait actuellement pas moins de 250 espions chinois et 200 espions russes dans la capitale belge. Bonne question posée par Arfang. Que peut faire l'Union européenne pour contrer ces tentatives d'espionnage?
Alors pour l'instant, la sûreté interne au service des affaires étrangères de l'Union européenne demande aux diplomates européens d'éviter certains endroits où ces espions ont pu être repérés, c'est-à-dire un café et un restaurant bien connu qui se trouve tout près de la Commission européenne. Alors ce sont les services de renseignement de chaque État membre qui travaillent à cette lutte contre l'espionnage, mais chacun séparément. Il n'y a pas de CIA européenne car le renseignement est encore une affaire nationale très sensible avec des informations et bien que les États ne veulent pas partager. La seule chose qui se fait depuis peu au niveau des 28, c'est la lutte contre les fausses nouvelles générées par ces espions sur les réseaux sociaux pour tenter d'influencer des élections, par exemple. Une plateforme est en projet avec des experts. La Commission prévoit de consacrer cette année 5 millions d'euros contre 1,9 million d'euros en 2018. 5 millions d'euros donc pour lutter contre la désinformation. La Commission qui réclame aussi à Google, Facebook, Twitter et Mozilla davantage d'efforts dans la lutte contre ces fausses informations. Il faut savoir que plusieurs pays européens ont également procédé à des expulsions préventives de diplomates russes. Ça, c'était en mars dernier, après l'empoisonnement des Skripal en Angleterre.
Oui, alors on dit qu'un bon espion doit se fondre dans la masse. Arfang nous demandait, sous quelle couverture ces espions sont-ils présents à Bruxelles?
Eh bien, ces centaines d'espions peuvent être, figurez-vous, des journalistes.
Ah, eh bien.
Eh oui, mais surtout des attachés auprès des ambassades et des représentations de ces pays à Bruxelles. Ils travaillent aussi dans leurs entreprises qui ont une activité en Belgique. Ils sont également lobbyistes.
Ah, lobbyistes également. Vous avez une autre question, Arfang, il me semble.
Bien sûr que oui. Est-ce que les pays accusés...
A-t-on perdu Arfang? On a perdu Arfang, me dit-on. Ah bah dommage pour lui. Est-ce que les pays accusés, j'imagine, ont réagi? Par la force des choses, ils réagissent. Les Chinois ont très vite réagi, Laxmi Lothar.
Oui, évidemment, la mission de la Chine auprès de l'Union européenne rejette ces accusations du service des affaires étrangères de l'UE. C'est sans fondement, répond un représentant de ce corps diplomatique à Bruxelles. Il poursuit en disant que la Chine est profondément choquée par ces accusations. La Chine respecte toujours la souveraineté de tous les pays et ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des autres pays, insiste le porte-parole. La mission qui exhorte également les parties concernées à ne plus tenir de propos irresponsables. Voilà, les Chinois mécontents donc.
Et les Russes ?
La Russie, elle, n'a pas réagi directement. Mais en novembre dernier, lorsque 4 espions russes avaient été expulsés par les Pays-Bas, Moscou avait parlé de campagne de désinformation et de compte digne d'Anderson.
On a retrouvé Arfang, a-t-on répondu à vos questions ?
Bien sûr que oui, jusque la dernière question, la ligne a été coupée, j'ai pas bien entendu.
Et vous n'avez pas bien entendu, alors vous savez quoi Arfang, sachez que dans les prochaines minutes, allez à la fin de cette première partie, vous allez sur l'application Pure Média de RFI et vous pourrez réécouter autant de fois que vous le souhaitez les explications de Lakshmi Lotha sur la présence des espions russes et chinois en Belgique. Et sachez que les espions américains et marocains seraient également particulièrement actifs dans la capitale belge, c'est ce que nous apprend la presse allemande. Merci à tous les deux. Bonne journée à Dakar et à Bruxelles. Nous poursuivons donc cette émission. Vos questions 33 9 693 693 70. Nous avons reçu plusieurs questions sur ce procès des indépendantistes catalans qui s'est ouvert mardi à Madrid en Espagne. Tous les Espagnols ont les yeux rivés sur la Cour suprême espagnole, sur ce procès qui est censé durer 3 mois. Satigui, rebonjour.
Bonjour, Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Bien, merci de votre vitalité. Vous êtes à Conakry, on vous écoute, vous aviez plusieurs questions. Posez d'abord la première, parce que je sais que vous en avez plusieurs.
Juan, le procès des indépendantistes catalans s'est ouvert dans un climat de crispation politique. Donc, une douzaine de personnes sont jugées devant le tribunal suprême de Madrid pour les faits de sécession et de rébellion. Alors, ma première question, quelle est la réaction des militants et des responsables catalans face au procès ?
Ah, comment réagissent les Catalans et les indépendantistes face à ce procès ? Hubert Pérez, bonjour.
Bonjour.
Professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine. Rappelons très vite que ces 12 dirigeants catalans sont jugés pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Je le disais tout à l'heure, toute l'Espagne suit ce procès et certainement les Catalans plus que tout le reste de la population espagnole, puisqu'en Catalogne, ce procès soulève une forte émotion. Comment réagissent-ils ces militants indépendantistes ?
Alors oui, il faut bien préciser que tous les Catalans ne réagissent pas de la même manière. Les militants indépendantistes sont une force importante, mais ils sont loin de représenter la totalité de la population catalane. Du côté indépendantiste, les choses, d'une certaine façon, sont très limpides. Pour eux, ce procès n'a pas de raison d'être en dehors d'une persécution politique. Et ils considèrent qu'il n'y a pas eu de transgression de la légalité, ou au moins pour eux, la légitimité du vote l'emporte sur le respect strict de la loi et de la constitution espagnole. Donc ils considèrent ce procès comme un procès purement politique et un déni de démocratie. Mmh. Cette façon de considérer les choses depuis l'extérieur du tribunal, on le retrouve également à l'intérieur du tribunal. Alors c'était hier par exemple le sens de l'intervention à la fois très posée, très sobre, mais d'Oriol Junqueras, qui est l'ex numéro 2 du gouvernement catalan, à l'époque de Carles Puigdemont, et qui de façon très calme a répété qu'il n'y avait pour lui absolument aucun délit, et si on poursuivait, c'est uniquement pour des motifs politiques, donc il s'agissait d'un procès politique. Il a d'ailleurs choisi de ne pas répondre aux questions posées par l'accusation, mais uniquement à celles posées par la défense, en situant les choses, pas du tout d'un point de vue légal, mais d'un point de vue politique.
Donc procès politique selon les indépendantistes, d'ailleurs, ils disent déjà qu'ils connaissent le verdict, les accusés risquent de 7 à 25 ans de prison, et ils ont déjà déclaré qu'ils déposeraient des recours une fois le verdict tomber, notamment des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Seul prévaut la justice européenne, disent en substance les indépendantistes catalans. Hubert Pérez, reste avec nous. Satigui a une seconde question à vous poser.
Quelle est la relation qu'entretiennent les indépendantistes catalans avec le nouveau gouvernement, sachant que leur relation avec le gouvernement Rajoy était exécrable ?
Ouais, c'est vrai que Pedro Sanchez est arrivé au pouvoir, notamment grâce aux voix des indépendantistes catalans. Notre auditeur faisait référence aux relations plus que tendues entre les séparatistes catalans et le prédécesseur de Sanchez, Mariano Rajoy. Concrètement, est-ce que les relations sont au beau fixe ou pas ?
Non, alors les relations évidemment sont pas au beau fixe et surtout, l'empreinte des montagnes russes, elle vient de se rompre de façon extrêmement intense ces tous les derniers jours, alors que la situation semblait s'être améliorée. Tout le jeu très compliqué de Pedro Sanchez depuis qu'il est arrivé au pouvoir, en sachant qu'il ne pouvait durer que si ces textes importants et le budget en particulier étaient votés par les partis indépendantistes catalans au Congrès espagnol, parce que c'est la seule manière pour lui d'obtenir une majorité sur ces textes, a été de tenter de dédramatiser la situation. Mais de dédramatiser la situation et les relations Espagne-gouvernement catalan avec des lignes rouges. Et l'une de ces lignes rouges était la non-reconnaissance d'un droit à l'autodétermination et la non-acceptation d'une médiation internationale, qui sont deux des demandes répétées qu'ont proférées les membres du gouvernement catalan actuel.
Oui, puisque au départ, tout allait plutôt bien entre le socialiste Pedro Sanchez et les Catalans. Pedro Sanchez a même tendu la main aux séparatistes en leur disant « je vous propose d'organiser un référendum, mais pour plus d'autonomie de la Catalogne ». Et là, les séparatistes ont dit « ah non, pas question, nous voulons un référendum d'autodétermination ». Donc à partir de ce moment-là, les relations se sont dégradées. Et puis on l'a vu, vous le disiez, Hubert Pérez, il y a quelques instants, les Catalans refusaient de voter la loi des finances qui est indispensable à Pedro Sanchez pour conserver le pouvoir. Il va donc y avoir des élections anticipées. Autre auditeur, autre question, qui avons-nous ? Rousseau, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons.
Ça fait 3 ans que l'Espagne connaît des problèmes d'instabilité dans les gouvernements. Et celui de Sanchez vient de voir son budget refusé au Parlement. Les élections anticipées devaient avoir lieu. Cela ne va pas favoriser la percée de l'extrême droite.
Ah, l'extrême droite espagnole, Vox, ce parti qui a conclu d'ailleurs une alliance il y a quelques semaines en Andalousie avec le reste des partis de droite, Hubert Pérez. Peut-on imaginer l'extrême droite au pouvoir en Espagne ?
Alors, au pouvoir, non.
Non, mais dans une alliance, parce que forcément...
Oui, alors, dans une alliance qui répéterait à l'échelle espagnole ce qui s'est passé en Andalousie, c'est quelque chose d'envisageable, même si ce sera beaucoup plus compliqué pour les centristes de Ciudadanos de faire avaler en quelque sorte à l'échelle nationale ce qui a été possible à l'échelle de l'Andalousie. Ce sera certainement plus compliqué. Mais effectivement, ce que les sondages actuels disent, c'est qu'il est tout à fait possible que pour la première fois depuis l'instauration de la démocratie, il y ait une percée électorale significative de l'extrême droite avec ce parti Vox qui pourrait rentrer au Parlement avec quelques sièges et permettre la constitution d'une majorité de droite, de centre-droit avec le Parti Populaire et le Parti Centriste Ciudadanos.
Oui, les sondages qui donnent tout de même les socialistes en tête, mais rappelons-le, en Espagne, il ne suffit pas d'arriver en tête, encore faut-il avoir une majorité, et là pour le coup ce sera bien compliqué pour les socialistes, pour la gauche espagnole, c'est bien ça hein, Hubert Pérez.
Ce que l'on prévoit à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a aucune majorité naturelle, aucun parti, le Parti Populaire ou le Parti Socialiste, qui autrefois alternait à la tête de l'Espagne, ne pourrait à eux seuls constituer un gouvernement, que la gauche, le PSOE, avec le parti radical Podemos, ne pourrait pas non plus constituer une majorité, et donc seule, grosso modo, une alliance entre les partis de droite et l'extrême droite serait en mesure de configurer un gouvernement majoritaire.
Le PP, Ciudadanos et l'extrême droite, Vox, à suivre donc dans les prochaines semaines, campagne électorale. On connaîtra la date des élections anticipées, très certainement dans la journée. On appellera évidemment, la rédaction appellera évidemment nos correspondants à Madrid. Merci beaucoup Hubert Pérez, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine. À suivre dans un instant la dernière édition d'Afrique Matin. On va retrouver tout le service Afrique de RFI pour les dernières informations et on reviendra tout de suite après pour la libre antenne. Donc continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos commentaires sur la page Facebook de l'émission, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, envoyez-le plutôt sur message privé. Ça évitera que tout le monde puisse connaître votre numéro et vos coordonnées personnelles. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.